que vous avez pu admirer notre qualité d'organisation, Ahmed Beydoun et moi-même, dans notre cadre de prévision du temps, puisque nous avons organisé une première conférence il y a une dizaine de jours pour annoncer que le système irait vers la catastrophe. Ensuite, on a donné le temps nécessaire pour que la catastrophe puisse se produire. Et maintenant, nous pouvons reprendre le débat là où nous l'avons arrêté la dernière fois. Ahmed, je te cède la parole.
Merci Henri. Cet exposé portera donc sur la notion d'indépendance nationale telle qu'elle est gérée par la société politique libanaise et l'État libanais. Je ne prononcerai peut-être pas le mot indépendance dans cet exposé, mais c'est d'elle qu'il s'agira. Je l'aborderai par le détour de ces conditions, de ces présupposés, et aussi et surtout de ces limitations. Progressivement et dans des conditions et à des rythmes variés, les communautés libanaises se sont dotées chacune d'institutions et d'appareils divers que dominent et en gros contrôlent les formations politiques communautaires. Ce processus a eu deux conséquences. Un, des communautés de plus en plus introverties et tendant à l'autarcie se sont offertes en alternative à l'élaboration pourtant réelle, mais souterraine et plus difficile, d'une nation. Ces communautés limitaient leurs besoins de l'État à l'exploitation politique de celui-ci, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elles en escomptaient des services et des privilèges particuliers que seul un État est susceptible de procurer. Elle lui déniait pratiquement le droit de représenter souverainement la nation, autant que celui de se doter, dans quelque domaine que ce soit, d'une vision politique métacommunautaire lui permettant de mettre en avant les intérêts généraux de la société. Deux, l'émergence de l'État en tant qu'autorité unitaire et que force d'arbitrage des conflits qui découlent sans cesse des divisions affectant la société politique est contrecarré, d'où l'empêchement de voir surgir à chaque étape une résultante apaisée de ces conflits qui, à leur tour, constituent un reflet partiel et mouvant des contradictions entre les diverses dynamiques sociales. Ce faisant, les forces communautaires contestent la fonction étatique d'application non discriminatoire des lois et autres règlements de la vie en société, ou encore la mise en œuvre de certaines politiques. Il suffira qu'une communauté se ligue contre l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement pour que celle-ci soit totalement ou partiellement empêchée. Nous avons même vu cette règle s'appliquer à la Constitution. Par-delà les exégèses de pacotille, c'est la complicité intéressée de forces communautaires suffisamment importantes qui parvient à imposer la mise en suspens, manifestement illégale par ailleurs, de dispositions constitutionnelles. D'autre part, l'absence d'une force nationale d'arbitrage des conflits, reflet de celle d'une volonté générale, laisse les portes ouvertes aux ingérences étrangères. Au cours des crises, les parties extérieures s'offrent pour assurer la gestion indispensable des crises. Mais en tout temps, ces parties arrivent à se rendre nécessaires, soit pour maintenir ou consolider l'importance de telles communautés, en lui accordant leur aide et leur protection, soit pour préserver d'un chambardement possible un rapport de force favorable à ses intérêts, mais menacé. Nous voici donc face à un double blocage. L'élaboration d'une nation et la mise en forme d'un État souverain butent sur le même obstacle. En elle-même, la diversité communautaire de la société n'explique pas ce double blocage. De nos jours, la pluralité incluant ensemble dans nombre de cas celle des religions, celle des ethnies et celle des langues est devenue le lot d'une majorité des sociétés du globe. Beaucoup de sociétés plurielles s'interdisent pourtant de faire de leur système politique une réduction photographique de leur composition de base. Au Liban, les communautés confessionnelles se sont acheminées vers un durcissement de leurs structures respectives, aussi immodérées que le permettaient les moyens disponibles dans leur rang ou surtout mises à leur disposition par des patrons extérieurs que privilégiaient le plus souvent l'homogénéité politique ou religieuse. Ainsi, nos communautés se sont cristallisées l'une après l'autre en groupements multifonctionnels, tendant à investir l'univers de leurs membres jusqu'au plus lointain de ses recoins. Le point de départ était l'appartenance confessionnelle commune, mais les instances politiques communautaires ont rarement puisé, du moins jusqu'ici, dans les contenus politiques éventuels de sources proprement religieuses. Cette rareté n'empêche pas des formations plus ou moins importantes de se tenir très près de prôner un système politique d'inspiration religieuse. Il demeure vrai, toutefois, que la religiosité ne s'est qu'inégalement imposée en condition de l'embrigadement d'une communauté. On table plutôt les lois et les règlements publics aidant sur la transmission héréditaire de l'appartenance, c'est-à-dire sur la simple naissance dans une communauté. S'alimentant mutuellement, la polarisation communautaire et la cristallisation avancée des communautés mettent en échec toute tendance de l'identité nationale à transcender les particularismes de groupe. Elles empêchent cette identité de faire valoir l'idée d'un système politique fondé sur la citoyenneté et doté de la capacité d'affronter sainement les changements qui ne cessent de bouleverser la société, l'environnement régional du Liban et le monde. Or, un système politique, quel qu'il soit, ne peut prétendre ignorer ces changements et les défis qu'il pose à ses capacités d'adaptation. Les communautés du Liban se sont cristallisées successivement. Ce processus, semblable à lui-même quant à sa finalité, empruntait des voies que les conjonctures différentes, l'inégalité des ressources, la diversité des alliances et celle des héritages historiques faisaient diverger. La fin ultime restait de réaliser l'unité ou ce qui en tiendrait lieu de la communauté concernée et de sa direction politique. Cette dernière était pressée ou s'empressait de se constituer en bloc unique et de s'arroger par-delà les fissures irréductibles du corps socio-communautaire une position d'indiscutable hégémonie au sein de la communauté. De ce point de vue, la tendance générale à la cristallisation finit par investir entièrement le système politique et ne peut plus être envisagée comme une succession de cas divers éparpillés dans l'espace et dans le temps. La guerre de 75-90 et ses lendemains constituèrent en fait une scène immense sur laquelle la violence, accoucheuse impatiente de l'histoire, imposer l'identification de telle communauté à son leadership désormais unique et irremplaçable. Quelques ratés devaient être corrigés pendant les années d'après-guerre. ceux qui contestaient cette identification ou se trouvaient contestés par elle étaient éliminés ou refoulés vers les marges. Aujourd'hui, cette identification étant largement réalisée, le système du communautarisme politique se débat dans une crise apparemment fatale. Il se retrouve dépourvu d'alternatives qu'autrefois la diversité politique intracommunautaire lui procurait. Mettant à l'épreuve le système et bloquant les portes de sortie qui lui étaient coutumières, le monolithisme politique des communautés demeure paradoxalement le signe de la puissance extrême du communautarisme coexistant avec son impuissance portée à l'extrême. De ce point de vue, ce monolithisme reste un obstacle majeur à l'activation de l'identité nationale, à l'apparition des citoyens sous les traits de forces politiques citoyennes. Il impose la confrontation intercommunautaire en forme dominante, non seulement dans l'espace politique, mais aussi dans tous les autres domaines de la vie nationale. Ce qu'on pourrait proposer aujourd'hui en matière de réforme politique proprement dite ne pourrait tabler sur l'existence d'une volonté conséquente de réforme chez les formations capables de lancer effectivement un programme. Nos idées ont plutôt pour allié principal l'échec historique retentissant des forces communautaristes en fait du principe même du communautarisme politique à assurer une gestion tant soit peu cohérente du système et du pays. La véritable impasse libanaise réside aujourd'hui dans cette coexistence d'un besoin brûlant de réforme démocratique qui embrasserait l'ensemble du système, c'est-à-dire à la fois le régime de gouvernement et les principes structurants de la société politique, et d'une faiblesse extrême de la volonté de mettre en œuvre ces réformes nécessaires. Ce qui précède met en évidence une vérité bien simple, mais essentielle pour la compréhension de l'histoire contemporaine de notre pays. La voici. Le communautarisme libanais a une histoire. Et c'est à la lumière de cette histoire qu'il devient possible de cerner la nature du rapport qui, au cours d'une phase particulière, se noue entre deux séries de phénomènes. Un, les transformations affectant les structures internes de communautés particulières et les modifications qui en découlent dans la carte générale de relations intercommunautaires et dans les rapports de force entre communautés. Et deux, les ressources dont dispose le système politique dans l'exercice de ses fonctions générales et la gestion de ses crises. Le communautarisme et le système politique auquel il sert de fondement ont une histoire, dans ce sens que chacune des épreuves qu'ils ont traversées a condamné une configuration et un mode particulier de fonctionnement qui étaient les leurs et les a amenés à en adopter d'autres différents des précédents. Ils ont une histoire dans ce sens qu'aucune de leurs grandes crises ne peut être considérée comme une réédition de la précédente. Il faut plutôt y discerner les mutations qui posent la question de l'avenir au système et à la formule et leur dictent une réponse chaque fois inédite. Des spécialistes et des non-spécialistes, ayant constaté la récurrence de grands troubles dans l'histoire moderne du Liban, ont pu, sans ignorer nécessairement que nos crises eurent des portées inégales et des traits variés, avancer la thèse de cycles, dont chacun commencerait par une période de crise aboutissant à un compromis qui préluderait au déclenchement, au bout d'un temps, d'une nouvelle vague de troubles. Des spécialistes crurent découvrir deux traits communs aux différents cycles. 1. Dans le pays même, la crise est préparée par la montée en force d'une communauté donnée qu'une autre communauté, craignant pour les privilèges dont elle jouit, tente de contrer. 2. Dans l'environnement régional du pays, le déclenchement de la crise est rendu possible par le développement d'une épreuve de force dotée de prolongements internationaux. Les parties intérieures en conflit se répartissent alors entre les camps régionaux ou internationaux en présence, ou plutôt se laissent annexer par ces camps. Une sorte d'amalgame se réalise qui désormais permet pour chaque développement de la crise deux lectures avançant main dans la main, l'une scrutant les motivations autochtones de l'événement et l'autre ses motivations extérieures. En général, les parties extérieures procurent au conflit la portion majeure de son appareillage matériel et politique. L'extérieur s'instaure en profondeur indispensable pour les parties intérieures et s'arroge le pouvoir de leur adjuger des missions où son intérêt prime plus ou moins celui des exécutants. Néanmoins, le projet de la partie intérieure et ses besoins restent, pour le parrain, un souci dont celui-ci ne peut allègrement s'alléger. Ce qui n'exclut pas des coups de poignard dans le dos qui restent possibles de deux côtés. Ils peuvent être occasionnés par des questions de détail autant que par des volte-face stratégiques. Nous n'avons pas d'objection à faire à ce schéma historique censé caractériser les étapes de l'histoire du Liban depuis le milieu du XIXe siècle jusqu'à nos jours. Nous y voyons toutefois un tableau trop abstrait, charriant le risque de nous induire en erreur en suggérant une ressemblance facilement trompeuse entre ces étapes. Notre réserve procède du fait que l'ascension d'une communauté montante à une époque donnée diffère par ses atouts, ses diverses ressources et ses résultats anticipés ou effectifs de l'ascension achevée à une autre époque d'une autre communauté. Il en va de même de la communauté qui n'a plus le vent en poupe et qui s'accroche. Ni le projet, ni les temps, ni la communauté ne sont les mêmes. Une autre constante dont, nous semble-t-il, les adeptes des deux constantes susmentionnées ne tiennent pas suffisamment compte est le fait qu'une communauté s'engage dans un conflit autant au moins pour changer elle-même ou pour tirer les conséquences de changements advenus dans sa configuration sociopolitique que pour obtenir une modification des équilibres généraux du pays. Le premier changement pouvant cependant appeler le second dès que celui-ci s'avère praticable. Il n'est pas question de nous attarder ici sur les transformations advenues dans la configuration sociopolitique dans le capital symbolique et par conséquent dans le projet général national, allions-nous dire, de telle communauté majeure du Liban, dans sa vision aussi de son rôle propre au sein de ce projet. Il ne peut être question aussi de nous livrer à des comparaisons tenant compte de tous ces éléments de cas différents et d'époques différentes. Pareil projet serait le projet d'une histoire du Liban moderne, de ses communautés et de sa formule de société, des différents aspects de sa praxis sociale et des façons qui s'y sont manifestées d'organiser les pouvoirs ou aussi de se lancer à l'aventure dans les courants de politique régionale et internationale qui se pressaient aux portes du pays ou débordaient à l'intérieur de ses frontières. Qu'il nous suffise de dire que ce que nous appelons cristallisation et qui décrit selon nous la tendance générale de l'évolution de nos communautés finit en s'exacerbant par affaiblir l'aptitude du système sociopolitique à s'adapter aux contraintes d'une période nouvelle. Cet affaiblissement, aujourd'hui extrême, s'exprime par l'absence d'alternatives communautaires pouvant assurer une relève crédible lorsque le partenariat des formations politiques au pouvoir devient impraticable. Impraticable, ce partenariat l'est bel et bien devenu dans le contexte de la crise systémique qui sévit ou qui sévissait jusqu'à hier, qui, selon moi, continue à sévir depuis bientôt 4 ans. Celle-ci a pour caractéristique centrale l'absence d'un pouvoir d'arbitrage intérieur susceptible de débloquer le système politique et le pays. Afin de s'adjoindre une faction de la société politique libanaise, l'offre pouvant d'ailleurs venir du côté libanais, les puissances extérieures, dont certaines étaient pendant les 3 dernières décennies installées à l'intérieur du pays, disposent de 3 registres. 1. L'assistance matérielle, dont l'aide financière est la forme la plus directe. Elle peut revêtir aussi un aspect technique, se situant au niveau de l'équipement et de l'entraînement militaire au besoin. Elle peut consister en facilités et services divers, en expertise et directive, en renseignement, etc. Faisant référence au volume présumé de ce type d'assistance, on a pu parler dernièrement d'un mode de production politique qui représenterait un ingrédient important de la structure globale de l'économie libanaise. L'expression fait allusion à la masse très considérable de gens gagnant tout ou partie de leur vie grâce au financement politique extérieur en majeure partie, qui vise à constituer ou à détourner au bénéfice du bailleur de fonds un portefeuille d'allégeance politique mobilisable à volonté. L'expression comporte peut-être une part d'exagération, mais reste bien digne de considération. 2. L'assistance politique, représentée par la mise à contribution au bénéfice de la partie libanaise concernée, de ce que la partie extérieure possède en termes de ressources et d'influence politique, au niveau par exemple d'organisations et de réseaux régionaux et internationaux. Il s'agira d'appuyer les actions du client libanais ou ses revendications, les unes et les autres restant en continuelle synchronisation avec les visées du patron, de le protéger en contrant les actions adverses visant à l'isoler, à l'affaiblir ou à le détruire. La dépendance politique d'une puissance étrangère a pu varier d'un cas libanais à l'autre en profondeur et en durée. Mais en général, elle ne se réduisait pas du côté libanais à une affaire d'individus ou de groupes secondaires. Il a pu s'agir, bien au contraire, de forces organisées, largement représentatives et capables par conséquent de mobiliser de grandes fractions de communautés et de jouir pendant longtemps d'une importante popularité, ce qui n'a jamais empêché les conséquences de ce type de dépendance de peser sur les conditions de vie du commun des Libanais, y compris ceux qui s'y prêtaient. L'érection d'un mur dans ce domaine, entre les causes et les effets, peut même être considérée comme une condition nécessaire de la dépendance imbue de sa propre légitimité. 3. La satellisation pédagogique ou symbolique. Elle se fait par l'entremise de systèmes de valeurs, de rituels, de stéréotypes intellectuels et émotionnels, et de comportements divers aux effets mobilisateurs. Il pourra s'agir de mobilisation politique ou guerrière, de resserrement des rangs communautaires obtenus par l'uniformisation de la vie quotidienne, la collectivisation ou déprivatisation des moments qui en constituent les articulations et qu'ainsi transformés on multiplie à l'envi. Bref, il s'agira de confirmation de contenus mentaux et émotionnels rendus communs à force d'être massivement dispensés ou régulièrement répétés, etc. En tout état de cause, le groupe devra faire étalage, afin de mieux les ancrer, des ressemblances induites de ces éléments et de l'uniformité de ces rangs. De ces types si multiformes de mobilisation, une rente politique ou politico-militaire doit dériver. Et plus la mobilisation s'insinue dans les différents aspects de la vie personnelle et tend à en contaminer la totalité, plus la rente devient importante et assurée. Le type religieux de mobilisation politique est bien évidemment le plus efficace. Il le devient d'autant plus que l'unité d'être, dans le sens où l'on dit unité de poids, n'est plus l'individu mais la communauté, et que la religiosité est vécue dans une version qui se condense en la soumission à une volonté suprême, informant dans le menu détail la vie et le comportement des hommes. Les canaux par lesquels ce mode d'être se propage sont divers. Les médias, l'école, les cérémonies de toutes sortes, les services spécialisés dans les organisations politiques, les lieux de rassemblement religieux ou autres sont mis à contribution, les murs et les rues sont convertis en porte-parole. Ces trois types de satellisation, donc matérielle, politique et symbolique, agissent de concert, séparément ou même se font concurrence. Ils ne sont pas à égalité quant à leur profondeur, à leur durée et à la gravité de leurs conséquences. Il est plus facile de passer d'une alliance politique à une autre que de changer de système symbolique. L'engagement ou l'allégeance découlant de chaque type de motivation présente des caractéristiques qui lui restent propres. Effective, quoique à des degrés divers, dans nombre de communautés libanaises, la densification et la singularisation des réseaux symboliques communautaires se traduisent par une révision à la baisse des chances de communication, de compréhension et de mixité intercommunautaire. D'autant plus que depuis les années de guerre, elle s'opère sur un fond d'adversité. Elle constitue un facteur bien plus déterminant quant aux chances de la convivialité que la mixité ou la séparation dans l'espace, les accords et les désaccords en politique, ou enfin le degré de communauté au niveau des goûts culturels. Il est opportun de confronter dans ce contexte, d'une part, la relation qui s'est instaurée pendant la guerre entre des organisations combattantes chrétiennes et l'État d'Israël, ou encore celle que l'appareil israélien d'occupation a nouée avec ses acolytes dans le sud Liban, et d'autre part, la relation en cours entre le Hezbollah et l'autorité sise à Téhéran, dont il se réclame. La première de ces deux relations s'est écroulée d'un seul coup, aussitôt démantelée l'échafaudage politico-militaire dont elle dépendait. Peu de traces en sont restées. La seconde, elle, imprime de plus en plus profondément son cachet au mode d'être collectif d'une fraction compacte du chiisme libanais. Elle dessine jusqu'aux traits les plus intimes de sa vision du monde et de la vie, déterminant aussi son mode d'insertion dans le contexte pluricommunautaire de son pays et sa perception de ce dernier. La relation Hezbollah-Iran apporte du nouveau aussi à ce qu'a été jusque-là le communautarisme libanais. Dans son maniement de la chose publique, ce dernier, tout au long de son histoire, relevait bien plutôt de la politique que de la religion, tant et si bien qu'il était pratiquement superflu de lui adjoindre l'épithète politique. Il partait de la religion ou de la confession pour tracer les limites des groupes. Et en dehors des questions de statut personnel, il s'abstenait de toute référence religieuse spécifique dans l'énonciation de valeurs ou de critères qu'il proposait à la société et aussi dans la formulation de lois ou de règlements qui émanaient de l'État. Le Hezbollah s'astreint encore à cette même consigne dans son maniement des affaires politiques ou juridiques relative à l'État. Sous cet aspect, il reste un parti communautaire et non un parti religieux. Mais sinon dans la sphère de la revendication politique et juridique, le Hezbollah a introduit des contenus religieux très denses dans celle de la mobilisation politico-militaire. Il a aussi déployé, dans les milieux soumis à son influence, une panoplie de contrôle des comportements privés et publics, débordant de loin les mécanismes traditionnels de contrôle en vigueur dans ces milieux. Sous ces deux aspects, le Hezbollah, du moins depuis qu'il a abandonné le mot d'ordre de République islamique au Liban, apparaît à la fois semblable aux groupes intégristes sunnites et différents d'eux. Ces groupes vont bien plus loin que l'exploitation de la religion dans la mobilisation politique ou encore dans la définition et l'imposition d'une discipline collective. Ils extraient de la religion le modèle de gouvernement qu'ils imposeraient, le cas échéant, au pays entier ou à toute portion du pays qu'ils auraient sous leur contrôle et qui serait alors déclarée Imara islamique. Le milieu chrétien, à son tour, voit se former des sectes ou des groupes intégristes dont les nouvelles défraient furtivement la chronique à des moments espacés. Ce petit monde ne s'est pas donné jusqu'à présent de porte-parole connue. Il est donc difficile de cerner son influence dans son terroir communautaire et l'impact qu'il serait susceptible d'avoir sur le vécu de la citoyenneté dans les régions chrétiennes du pays. L'histoire contemporaine du Liban a compté de très nombreux cas d'inféodation en masse ou en groupe plus ou moins limitée à des puissances extérieures. Ces cas égrènent à peu près le chapelet des grandes confrontations politiques dans le pays, dans leurs moments d'acuité surtout, mais aussi dans leurs périodes paisibles. Ils paraissent constituer une sorte de tradition libanaise, emportant allègrement les présupposés politiques de la citoyenneté ou même de l'élémentaire nationalité, et défonçant dans la foulée la barrière légale que représente dans un état de droit l'allégeance à l'état souverain. Invariablement, la mention du fait que la relation entretenue par telle formation libanaise avec telle puissance étrangère enfreint la constitution du pays fait sourire, tellement le constat est superflu et le changement de cet état de fait hors de portée. Ce type de relation a pu rendre quasiment indiscernables les acteurs extérieurs et les acteurs autochtones dans les crises qui ont dévasté le pays, celle qui sévit actuellement comprise. La mise en regard de deux séries de facteurs, l'une extérieure et l'autre libanaise, tourne en pareille conjoncture à l'exercice rhétorique épuisant et quasiment stérile. Il va sans dire que la tendance à se jeter dans les bras d'un protecteur étranger devient plus forte dans les périodes de tensions intérieures marquées. Il est tout aussi vrai que des puissances étrangères impliquées dans les affrontements régionaux se féliciteraient, dans la mesure où ces affrontements s'enveniment, de trouver à leur disposition un Liban divisé ou même en état de guerre civile. En effet, la fameuse place As-Saha, la fameuse place libanaise, s'avère alors propice au troc en série, dont une au moins de deux parties extérieures en lutte ne peut que devenir friande. Cette partie se donne sur la scène libanaise les moyens de menacer le camp adverse, directement ou par allié libanais interposé dans ses intérêts, au cas où il portait atteinte aux siens ou n'obtempérait pas à ses demandes, au Liban ou ailleurs. La même partie peut par contre faire montre de souplesse envers ses adversaires en contenant le danger auquel se trouvent exposés les intérêts de ces derniers au Liban ou à partir de son territoire. En échange, elle s'attend à une récompense qu'elle pourra encaisser à l'intérieur ou à l'extérieur de ce pays. Ces trocs en série sont conditionnés par le démantèlement des garanties protégeant la vie civile des Libanais. Celles-ci sont progressivement remplacées par des dispositifs parallèles que contrôlent les groupes combattants et qui constituent ce qu'il faut bien appeler le système de la guerre. Ce système s'infiltre dans celui de la vie civile et le corrompt. Les attentats terroristes, baptisés « messages », en l'occurrence, assurent l'orientation politique de cette opération ou la font passer d'un stade à l'autre de son développement. Les parties extérieures imposent à leurs partenaires libanais la synchronisation des fins qui sont les leurs et qui obéissent à une logique bien à elles avec la cascade de trocs scandant le déroulement des luttes sur de multiples scènes. La dite synchronisation est naturellement difficile à maintenir et fait apparaître les partenaires libanais tantôt sous les traits d'instruments dociles et tantôt sous ceux d'acteurs à part entière, faisant montre d'initiative et dotés de stratégies propres. Il faudrait, pour y voir clair, embrasser du regard toutes les étapes effectivement franchies ou prévisibles de ce processus nécessairement sinueux et de longue haleine. Tel est, en bref, la logique de la demande extérieure et de l'offre libanaise de services politiques. C'est une logique qui privilégie pour le pays une situation de crise et de conflit. En situation de détente, le Liban sert de tribune de propagande, de refuge ou de relais aux capitaux, ou plus généralement de champ d'influence où des positions sont maintenues ou aménagées pour des jours à venir. En situation de tension persistante ou de conflit, ce pays devient plus utile, au moins pour l'une des parties étrangères représentées sur son échiquier politique. Déchiré, il peut servir de place sur laquelle on échange des menaces concrètes que parfois on exécute ou que l'on s'abstient d'exécuter selon les besoins de causes diverses. Le climat de conflit tend à réduire le pays et ses habitants au statut d'otage en enclenchant le processus de troc lié aux contradictions qui travaillent le Moyen-Orient. Les Libanais se mettent à vivre dans ces conditions au rythme de conférences qui se réunissent, de visites rendues ou de déclarations que l'on fait de par le monde, sans qu'il s'y agisse nécessairement d'eux ou que le nom de leur pays y soit explicitement articulé. Sur leur territoire, leurs partenaires étrangers mesurent entre-temps leurs capacités respectives d'échanger violemment des pressions politiques ou d'obtenir des faveurs. Le Liban leur procure la possibilité d'éviter d'être tenus pour responsables de la violence qu'ils orchestrent et entretiennent. Il leur épargne aussi et surtout le coût suprême, fatal peut-être pour les plus vulnérables, d'une épreuve de force qui les opposerait directement les uns aux autres. Il ne suffit pas toutefois de scruter les formes d'ingérence étrangère visibles au Liban en temps de crise ou de conflit. Il est nécessaire de mettre en lumière aussi les foyers d'ingérence continue dans les affaires de ce pays. Les puissances extérieures paraissent tenir en effet, moyennant des investissements divers dont nous avons défini les formes, les rênes de centres permanents dont l'influence est considérable dans la sphère politique et dans celle inséparable de la précédente des services sociaux. Sans oublier, bien entendu, les centres de diffusion de symboles. Les fils de ce réseau dessinent à l'avance les lignes de front, communautaires surtout, et à la fois les contours des solidarités concurrentes avec des puissances actuellement ou potentiellement rivales. Dans une conjoncture de crise, l'aide matérielle ou politique peut être déterminante en matière de répartition des allégeances libanaises entre des patrons étrangers. L'investissement symbolique, je le répète, reste en revanche le plus efficace pour la consolidation et la protection de mouvances durables. Aussi, la sommation d'un groupe libanais de renoncer en période de crise à ses accointances extérieures arrive souvent trop tard. Il en est ainsi parce qu'auparavant, le réseau de liens aura été laissé pendant longtemps se tisser et s'affermir. Sur ce plan, les élites communautaires du Liban se sont copiées les unes les autres sur une période de près de 2 siècles. Lorsque les intérêts et les sentiments qui leur sont solidaires auront beaucoup grossi en se nourrissant les uns des autres, il devient absurde d'exiger, en temps de crise au surplus, un sevrage immédiat. De l'intérieur, une guerre civile paraît être une lutte pour le pouvoir d'État et autour de ses équilibres. Or, il semble étonnant que soit si férocement convoité au Liban un pouvoir d'État connu pour ses limites, ses incohérences et sa dispersion. L'étonnement paraît encore plus justifié dès qu'on tient compte d'un autre fait de notoriété publique. L'État libanais se dispense de peser sur une société éprise de libéralisme économique et connue pour assurer les services dont elle a besoin, grâce surtout à l'initiative de ses fils et aux ailes de ses réseaux, sollicitant d'une part les solidarités traditionnelles, non nécessairement désintéressées, des Libanais du Liban, comme de ceux de la diaspora, et bénéficiant d'autre part d'aides internationales diversifiées et consistantes. Quelles qu'en soient les lacunes et les aspects contestables, cette formule de compensation des carences de l'État s'impose. L'État n'en est pas moins âprement disputé, et ce paradoxe s'explique par deux séries de faits. 1. On s'acharne pour contrôler l'État faible afin de préserver sa faiblesse et de la consacrer en répartissant en lots les institutions publiques, car des intérêts considérables sont liés à la dilapidation de l'autorité de l'État. D'abord, il devient possible de se soustraire à l'autorité de la loi dans le domaine des affaires. Non seulement on échappe à des frais, on échappe aussi à des règles en vigueur. L'influence politique couvre beaucoup d'infractions et de comportements illégaux. La protection de l'illégalité rejaillit sur les protecteurs qui se retrouvent entourés d'une foule de sympathisants les protégeant à leur tour. Plus l'illégalité s'impose, plus l'attraction magnétique du pouvoir devient grande, et aussi celle que les seigneurs au pouvoir exercent sur leurs sujets. La rente de la protection réciproque se distribue entre les deux parties. Il en revient de gros profits pour les plus forts et des miettes pour les plus faibles. Cette forme de redistribution finit par affecter les équilibres internes d'une communauté et à plus longue échéance les équilibres intercommunautaires. La difficulté ou au contraire l'aisance des démarches administratives constitue un facteur important que les intéressés aspirent tenacement à maîtriser. Il y va considérablement, en effet, de vos chances dans la concurrence. Afin de se tailler une popularité, un homme politique libanais a de tout temps eu besoin d'opposer son influence à l'autorité des lois, de protéger de celle-ci autant que faire se pouvait ceux qui autrement seraient entravés dans leur course au profit ou auraient des démêlés avec la justice. Ce qui n'a jamais empêché les hommes politiques soumis à cette règle du jeu d'être eux-mêmes les législateurs et à ce titre de tenter de trafiquer les textes de loi avant d'avoir à les détourner. Il va sans dire que la disposition à dépendre politiquement d'une puissance étrangère arrive en tête des motifs qu'un homme politique peut avoir de préférer chez lui un État faible. En effet, il s'agit là d'une conduite intolérable ou susceptible de le devenir pour un État qui prendrait au sérieux sa souveraineté. De son côté, l'expansion de ce type de pratique politique répand dans l'espace national où évolue l'État, une sorte de laisser-aller, de mollesse, qui finit par gagner la charpente même de ce dernier. 2. L'État libanais est convoité d'autre part parce qu'il n'est pas aussi démuni que le veut la rumeur publique. Les dépenses qu'il consent, en s'endettant éventuellement, ne sont pas trop anodines pour que les requins, les plus gros compris, s'y intéressent. Les mains de l'État ne sont pas liées dans le domaine de la motivation économique ni dans celui des services sociaux. En fait, il est victime d'une vieille tradition qui fait que les membres de la tribu se sentent en droit d'être entretenus sans contrepartie immédiate de leur part aux dépens de leur chef. D'où une tolérance générale de l'emploi surnuméraire dans certains services publics et de compensations encaissées dans la foulée sans que la réalité de leur objet ait été dûment vérifiée. Ajoutée à l'importance des financements extérieurs et de la dette, la dominance des impôts indirects dans la panoplie fiscale contribue à dépersonnaliser le contribuable en tant que source des deniers publics. D'où la désaffection dont fait preuve la masse des contribuables quant à la gestion des revenus de l'État et à la soumission de ses dépenses à une définition raisonnablement rigoureuse du bien public. À l'emploi en surnombre et à l'entretien sans contrepartie, au trafic d'influence en vue de soulager de contraintes légales des affaires ou d'obtenir un traitement préférentiel dû ou indu dans l'administration, il convient d'ajouter les interventions directes de l'État dans l'activité économique et sa part dans les services sociaux. Les instruments en sont multiples. Ils comprennent la politique fiscale, le développement d'infrastructures publiques, les équipements sociaux dépendant de l'État ou bénéficiant de son assistance, etc. Il faut ajouter enfin la gestion souvent non exempte de préférences politiques des dépenses liées à ces interventions, c'est-à-dire l'octroi de marché, l'évaluation de compensation, etc. En définitive, l'État libanais s'avère faible là où il devrait se montrer fort, c'est-à-dire dans la collecte de ses droits et dans l'assujettissement des comportements individuels et collectifs à son égard au terme de la loi. Il est imprudent là où il devrait être réticent, c'est-à-dire dans la tolérance affectant la gestion de ses relations avec la masse des citoyens d'une marge considérable ouverte aux logiques de l'entretien indu, du clientélisme et du trafic d'influence. Ces deux aspects du statut au sein de la société libanaise, de l'instance étatique et de son comportement, s'unissent pour ériger le pouvoir d'État en objet de très fortes convoitises intérieures et extérieures. De par leur charge massive de délinquance collective, ils rendent les luttes pour le pouvoir susceptibles de dégénérer en conflit civil. Une guerre civile au Liban serait, d'autre part, nous l'avons déjà rappelé, une série de luttes intracommunautaires dont l'objet est à la fois le leadership socio-économique et la représentation politique de chaque communauté. Il en résulte la mise hors jeu ou la marginalisation de certains et la montée en force d'autres. Cette relève devant prendre pleinement forme lors de la sortie de guerre. Cet aspect du conflit est au moins aussi important que l'autre, autant pour l'appréciation des résultats sociopolitiques de la guerre que pour l'explicitation de ses causes intérieures. La guerre constitue une occasion de s'affirmer pour des forces sociales et des élites jusque-là tenues en marge des affaires communautaires, mais ayant développé des atouts traduisibles en termes d'influence politique, cette dernière ne devant pas tarder à se traduire en promotion socio-économique. Les nouvelles forces communautaires hésitent peu d'ailleurs à se livrer à une concurrence entre elles, pouvant atteindre des degrés paroxystiques de férocité. Ces luttes intracommunautaires au second degré deviennent pratiquement inévitables lorsque la communauté se trouve être sujette à un double patronage extérieur. Les deux patrons se livrent bataille, dans ce cas aussi, par clients libanais interposés. Un patron unique peut d'ailleurs attendre que la confrontation se solde par le rapport de force voulu avant d'imposer à ses clients une trêve ou un compromis durable. Le cumul de profits de guerre de toutes sortes, le retranchement dans leur position des parties libanaises, le besoin qu'ont les parties extérieures de maintenir la possibilité de troc en chaîne, s'unissent pour empêcher la guerre civile d'atteindre une phase de lutte finale ou d'aboutir à un compromis. Une guerre civile à la libanaise a toute chance d'être un conflit très prolongé, sujet à des soubresauts très variés, à des métamorphoses inattendues et à des imbrications directes dans le combat de forces autochtones et de troupes étrangères. Elle comporterait des périodes de violence extrême et étendue et d'autres de violence plus ciblée, ambulante, multiforme ou localisée. Elle comporterait enfin des périodes d'accalmie ou d'attente où la violence peut n'être qu'un travail de maintenance de l'état de guerre. Cependant, l'effet le plus saillant d'une alliance libano-étrangère consiste à exagérer l'importance ou la visibilité de la partie libanaise bien au-delà de ce que permettraient les ressources propres d'une société épuisée et si fragmentée. Il ne s'agit pas seulement d'un effet de la seule assistance matérielle, mais aussi et peut-être surtout de l'adoption politique et de l'injection massive de symboles. Transformée en idole de masse mobilisée et disposant de ressources matérielles substantielles, les seigneurs de la guerre deviennent aussi les interlocuteurs des ambassadeurs des grandes puissances, la destination obligée des grands visiteurs internationaux et bien évidemment des stars des médias. Dans tous ces domaines, ils laissent aisément derrière eux, quand ce ne sont pas les mêmes, les dignitaires de l'État. Leur dépendance de l'étranger n'en est que plus renforcée, en fait. Le cérémonial dont ils s'entourent ou sont entourés ne servant qu'à la dissimuler. En réalité, leur prestige grandissant étant monnayable auprès du tuteur, ils passent d'une dépendance conjoncturelle à une autre durable. S'en libérer devient plus coûteux, dangereux même. Celui qui ose commettre ce revirement risquant de tomber sur un compagnon de route prêt à l'éliminer, tant il devient pressé avec la bénédiction du parrain de prendre sa place. Qu'on les considère de l'intérieur du pays ou de plus loin, la marche vers la guerre civile et la guerre elle-même désintègre profondément le lien de citoyenneté et mine l'idéal citoyen. Il semble en aller autrement d'un certain patriotisme. Par-delà leur dépendance de l'étranger, les parties du conflit libanais continuent à se réclamer toutes d'images concurrentes de la patrie. En fait, il reste possible de maintenir des attaches très solides à une terre et à une société où la notion que l'on se fait de la liberté vous autorise à passer parallèlement à l'État des contrats d'échange de services politiques avec des puissances étrangères, où le financement étranger de formations politiques et de médias en contrepartie d'allégeance n'est contré que par d'intermittents froncements de sourcils, et où des équipements militaires dignes d'une grande armée continuent de déferler à travers une frontière que les patriotes refusent de faire surveiller, etc., etc. Cet attachement sui generis, mais très authentique à la patrie, inspire des discours, des éditoriaux, des poèmes. Il en ressort que les raisons d'aimer sa patrie sont si variées et si contradictoires qu'elles peuvent compter des raisons de la détruire. La citoyenneté, quant à elle, ne peut se concevoir sans l'état de droit, l'allégeance des citoyens à l'État et le respect de sa souveraineté. C'est bien le sens du serment que prête le président de la République libanaise au moment d'entrer en fonction, donc dimanche prochain. Sous d'autres cieux, on exige des personnes qui viennent d'être élues citoyens de l'État de prêter un serment équivalent. Dans ce domaine de la citoyenneté, la loi libanaise échoue à remplir son rôle. Les Libanais, de leur côté, ne résistent pas assez à des traditions anti-citoyennes que leur histoire contemporaine a développées, souvent à bon escient, tellement la construction politique du pays, justifiée de par les prémices qui furent les siennes, les réactions de refus. Il est grand temps pourtant qu'il regarde de plus près ce qu'il continue de faire. Enfin, l'ordre mondial et le droit international, eux non plus, ne réussissent pas beaucoup à empêcher que des puissances désireuses pour des raisons qui les concernent de déstabiliser de près ou de loin des sociétés fragiles et de petite taille arrivent à réaliser leur dessein. Je vous remercie de votre attention.
Un grand merci à Ahmad pour cette magnifique conférence. Avant que l'on procède aux questions, il y a un petit cérémonial. Je suis là pour t'apporter ce que tu mérites, la médaille du Collège de France.
Ah, merci.